ceci est très important pour nous, puisque notre vie religieuse nous demande de vivre de l'éthique chrétienne au sens le plus parfait qui soit, tant vers la perfection de la vie religieuse. On ne doit pas vivre de notre vie chrétienne à moitié dans la vie religieuse. C'est insupportable. On doit vivre de la vie chrétienne de la manière la plus parfaite qui soit. Et donc, on comprend que l'amour d'amitié prend dans la vie religieuse une modalité très particulière. Il y a quelque chose qui nous le montre très nettement, c'est que l'amour d'amitié ne donne aucun droit à sortir de la vie commune. Vous voyez, en disant « Ah, il faut que je voie mon ami, mon très cher ami, qui me fait tellement de bien. » Le silence à partir du Salve Regina et ainsi de suite. Mais la vie commune empêche l'exercice de la charité fraternelle. Tu vois, mettons de l'amour d'amitié en mesurant cet exercice selon un mode commun de la vie commune. Il faut que l'exemple, il faut que le lit qu'on présente chez les Chartreux et la même dimension pour tous. Et donc on coupe les jambes pour qu'ils soient la même taille pour tous. On coupe les jambes métaphoriquement. T'es sûr? Il n'y a pas la boucherie pour tous les pieds trop grands. Mais métaphoriquement, il y a quelque chose de juste. Parce que tous n'ont pas le même besoin de sommeil. C'est quelque chose de très individuel, le sommeil. Puisque c'est le repos. C'est peut-être ce qu'il y a de plus individuel en nous. Puisque c'est l'aspect du corps. Le repos. Et l'individuation, c'est l'aspect du corps. Et la quantité. De s'exercer plus ou moins selon l'individuation de chacun d'entre nous. C'est dans le caractère individuel de l'exercice de la charité fraternelle que se manifeste le plus ce fait de se voir plus ou moins. cette commune est farouche. Et vous, on n'a pas le droit, au nom de la charité fraternelle et de l'amitié, dire tant pis. Le prieur, le père maître, n'a rien à voir là-dessus. Oui, il a quelque chose à voir là-dessus. Parce que c'est lui qui précise exactement dans la vie commune les moments où je peux parler individuellement à telle ou telle religion. Et ça me semble très net, ça. Et c'est très important de le comprendre. Si on a des objections là-dessus, qu'on essaie de formuler les raisons qui donnent raison pour s'opposer à ça, ça j'y tiens beaucoup. Parce qu'autrement, on n'entre pas dans cette exigence de la vie commune. C'est pour la vie religieuse. Parce qu'il est évident que pour quelqu'un qui n'est pas dans la vie religieuse, c'est beaucoup plus souple. La vie chrétienne ne règle pas qu'on doit se coucher à telle heure, qu'on doit se lever à telle heure, qu'on n'a pas à voir son ami plus que telle journée, moment dans la semaine ou dans la journée. Ça reste souple et selon la conscience de chacun. Mais si on a un père spirituel, c'est bon d'en parler. Parce que point de vue chrétien, le temps ne nous appartient pas. Je n'ai pas le droit d'organiser ma vie comme bon me semble, point de vue éthique chrétienne. J'organise ma vie selon la volonté du Père sur moi. J'organise ma vie dans l'obéissance au bon plaisir du Père, jusque dans la question du temps. Mais quand on est père spirituel d'une chrétienne mariée, on doit toujours être attentif aux volontés de son mari. Et surtout pas que la volonté du directeur spirituel aille contre les volontés du mari. Ce serait très grave, ça. Sauf si on a affaire à un tyran, ce qui arrive de temps en temps. À ce moment-là, on doit demander conseil si on est un jeune prêtre. Parce qu'on risque de faire des bêtises dans ce domaine-là. Vous comprenez, c'est très délicat. Il faut toujours être très attentif à ça. Que quelqu'un qui est marié doit obéissance à son mari. Et c'est exigé dans la vie chrétienne. Et celui qui est dans la vie religieuse doit obéir à son supérieur. Point de vue fort externe. Pour l'organisation de son temps. L'organisation du temps de chaque religieux ne dépend pas de son père spirituel, mais dépend de son institution, donc de l'autorité. Et ceci aussi pour une novice qui dépend de sa maîtresse de novice. disposer de son temps selon le désir de son père spirituel. Non. La question du temps relève du fort externe. Et ce n'est pas du fort interne. La question de l'intention relève du fort interne. La question de la manière dont on va le vivre, fort interne. Et la question du temps relève du fort externe. Et au point de vue du fort externe, la maîtresse de novice a autorité pour organiser le point de vue du temps. La maîtresse de novice ou le maître des novices, ça revient au même là. Qu'il s'agit des sœurs, qu'il s'agit des frères, c'est la même chose. Un novice n'aurait pas le droit en disant à un frère âgé, plus âgé, qui est son père spirituel, non, on va rien dire. Je peux m'arranger pour que le père maître ne s'en aperçoive pas. Mais je peux te voir tous les jours. À tel moment, je peux te voir trois fois par semaine, à tel moment, je ne dirai rien, ils ne verront rien. Surtout, si tu interroges, tu t'es. Eh bien ça, c'est contraire à la vie chrétienne, à l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne reconnaît la vie religieuse comme une exigence plus profonde qui saisit toute notre vie. Celui qui est religieux n'a plus de temps pour lui. Même sa santé ne lui appartient plus. C'est dans ce sens-là que un religieux peut très bien demander à son père maître ou à son supérieur d'être soigné par tel ou tel médecin. Mais il n'a pas le droit de lui-même de choisir tel ou tel médecin. Très délicat, ça. Quelquefois, c'est source de conflit, je comprends. Est-ce que le médecin peut très bien ne pas comprendre la vie religieuse. Alors, esprit contrarié. Non, au nom de votre santé, vous devez vous reposer. Qu'est-ce qui permet le repos? Est-ce que c'est le médecin? Ou est-ce que c'est le supérieur? Ou est-ce que c'est la maîtresse et novice? Oui. C'est toute la question de savoir si la vie religieuse fait que notre corps, notre santé est donnée à Dieu. Ça ne m'appartient plus. C'est donné à Dieu par l'intermédiaire de mes supérieurs. Et c'est dans ce sens-là qu'on dira quelquefois, la vie religieuse c'est comme une secte. C'est pas une secte parce qu'on est entré librement en vue de la sainteté, de suivre Jésus. On est donné librement. Mais on a accepté que notre santé ne nous appartienne plus. Notre santé est un bien extérieur. Ce n'est pas un bien intérieur. Notre santé ne fait pas partie du fort interne. C'est sûr, on doit avertir. On peut demander. Mais c'est important de savoir que c'est remis au prieur, à la prieure, c'est remis à la maîtresse de vie. Alors, pour le chrétien qui vit dans le monde, pour une femme mariée, c'est nécessaire que ces questions-là soient réglées avec son mari. Et c'est pas le père spirituel qui doit les régler. Tu peux donner un conseil, mais de notre vie chrétienne avec son rythme de vie particulier. Ça, c'est la purification intérieure. C'est plus la question de l'exercice visible, mais c'est la purification intérieure. Nous ne pouvons pas aimer l'ami comme on l'aimerait dans une pure amitié humaine. On doit l'aimer dans la lumière de l'amour du Christ promis. Ce qui, remarquez le bien, permet d'aller plus loin dans l'amitié, au point de vue qualitatif, pas au point de vue du temps, de l'exercice qu'on donne, mais au point de vue qualitatif. Personne ne peut mieux nous aimer que Jésus. Si donc, en raison de la vie chrétienne, j'aime mon ami dans la lumière du Christ, je l'aime mieux que si je ne l'aimais pas dans la lumière du Christ. Ça, il faut en être convaincu intérieurement. C'est parce que Jésus c'est quelque chose qui est profondément inscrit en nous. Ça. Mais Jésus ne peut jamais être rival d'une amitié humaine qui tend à être la plus parfaite qu'on le désire. Jésus ne peut jamais être rival de cela. Jésus, au contraire, me permet de l'aimer mieux et plus. Si on dit que Jésus est rival, ça prouve qu'on aime mal l'ami. Parce que ça arrive de temps en temps, ces choses-là. Et au point de vue des directions spirituelles, c'est assez délicat. Une jeune femme s'est mariée n'étant pas très, très profondément chrétienne. Dieu se charge de la rendre plus profondément chrétienne. Elle est heureuse. Mais forcément, cette vie chrétienne, devenant plus qualitative, plus forte, transforme le cœur, la sensibilité de cette personne. Cette jeune femme. Et son époux, qui ne change pas de la même façon, s'en aperçoit. Et il se crée à ce moment-là, très facilement, une tension. Et l'époux devient jaloux de l'amour de son épouse pour le Christ. À ce moment-là, il faut essayer d'éclairer l'épouse pour qu'elle fasse comprendre que ce n'est pas vrai que l'amour de l'époux pour son épouse essayer de faire comprendre que c'est l'époux son épouse et qui a cru que c'était son bien et que c'était lui qui était la mesure de son épouse. Ceci arrive très souvent parce qu'on ne vit plus un climat chrétien, on vit un climat païen, pour bien se le dire. Alors c'est des choses très très délicate. Et qu'on doit comprendre. C'est la même chose pour la vocation. Vous connaissez une jeune fille ou un garçon. C'est plus facile avec les garçons, ordinairement. Les parents acceptent plus facilement la vocation d'un garçon, de leur garçon, de leur jeune homme, que de leur fille. Parce que la vocation religieuse pour un homme, surtout s'il y a le sacerdoce, implique quelque chose qui a une certaine dignité humaine, une certaine grandeur humaine. Alors il l'accepte facilement. Et puis, l'amour des parents pour leurs enfants.
Soi-même voir si la maturité
encore plus attention aujourd'hui à cause des sectes. Mais, alors, ordinairement, quand on est dans des cas comme ça, vous demandez conseil à ceux qui sont plus âgés, qui ont une plus grande expérience, pour ne pas agir d'une façon mauvaise. D'une façon, vous voyez, qui risquerait de mettre les parents en opposition vis-à-vis de l'Église. Donc il faut connaître cela, ça fait partie des connaissances du droit canon. Et c'est très beau parce que ça fait comprendre comment l'Église veut son pas avec suffisamment de nettoyage.